Le reste du XVIIIe siècle et l'histoire de l'Occident depuis lors montrent bien à quel point ils ont réussi, lui et ses associés, à modifier la manière de penser de nombreux peuples et avec quel succès également ils ont préparé l'esprit du peuple en s'y infiltrant à la Révolution française et à ses développements ultérieurs dans les domaines politiques, philosophiques, culturels et religieux au cours du XIXe siècle. L'esprit des philosophes produisit même dans certaines églises du XIXe siècle ce dérivé logique du philosophisme qu'on a appelé le libéralisme. Ce que Diderot proposait comme thèse, le père Chaminade le réfutait par son antithèse. Outre sa dépendance par rapport à la franc-maçonnerie et sa dette envers les salons pour leur hospitalité, le philosophisme doit reconnaître qu'il doit au courant déiste provenant d'outre-Manche, comme les orages et le mauvais temps. À la fin du siècle, les Anglais témoignaient de leur horreur devant les excès de la Révolution française, que beaucoup parmi eux avaient pourtant salué avec joie quand elle avait éclaté. Mais peu d'entre eux se rappelaient les premières forces révolutionnaires que l'illuminisme anglais avait fournies pour créer et lâcher le Frankenstein qui allait un jour terroriser toute l'Europe, y compris l'Angleterre. Le baron de Montesquieu est l'auteur du premier livre qui parle des aspirations à un nouveau genre de vie parmi la nouvelle génération en France. Dans le genre littéraire le plus innocent, le roman, il exprime dans les lettres persanes sa critique du monde qu'il connaît. Au moment où il écrivait cet ouvrage, Montesquieu était un inconnu. Mais il devait bientôt devenir celui dont tout le monde parle en ville. Dans son ouvrage, il imagine deux persans qui visitent Paris et l'Europe. Le genre est bien connu dans la littérature anglaise. Samuel Johnson l'adopta dans ses Rasselas. Le jeune prince qui voyage au loin pour apprendre à connaître l'étrange comportement des autres pays. Les persans de Montesquieu critiquent ce qu'ils perçoivent des préjugés sociaux, religieux et politiques de l'époque. Le roman, tel un masque de carnaval, permet à l'écrivain d'exprimer librement ce que fait Montesquieu. Quand il quitta son domaine de La Brède, près de Bordeaux, pour Paris, il fréquenta aussi l'entresol, un endroit ouvert au débat par l'abbé Alary. C'est dans ce foyer bien connu de fermentation des idées qu'on pense que Montesquieu fut pris d'admiration pour la Constitution anglaise, non écrite, à laquelle il donna un rôle si important dans l'esprit des lois, ouvrage dont Voltaire, dans son habituel langage au vitriol, disait « C'est de l'esprit sur les lois plutôt que l'esprit des lois. » Diderot, de son côté, est plus connu que Montesquieu comme esprit novateur dans le mouvement philosophique du XVIIIe siècle. Il passa sa vie à combattre la religion et l'oppression et fut sensible, lui aussi, au vent qui soufflait d'Angleterre. Il connaissait l'anglais et gagnait même sa vie, pendant un certain temps, en faisant des traductions de l'anglais au français. Son gros travail sur l'encyclopédie commença lui-même par un contrat relatif à la publication en français du Dictionnaire universel des arts et des sciences d'Ephraim Chamber, publié en Angleterre en 1728 et qui connut un grand succès. Pendant 20 ans, Diderot fut la cheville ouvrière de l'entreprise. En 1757, le Parlement condamna son ouvrage comme le livre de toutes les erreurs, expression qu'on retrouve dans la manière dont Saint Pédis présenta le modernisme comme le résumé de toutes les hérésies. Le 3 août 1759, l'Église, en la personne du pape Clément VIII, ajouta sa condamnation de l'encyclopédie à celle du Parlement. Diderot lui-même résuma son esprit dans cette phrase lapidaire « Je crois en Dieu, mais je vis très bien parmi les athées. » En réalité, Diderot est profondément matérialiste. Il milite pour la libération du corps et de l'âme, il est le chantre du progrès, mais il n'est pas logique avec lui-même, car dans le domaine économique, il est conservateur.